Leçon numéro 92. La vie du disciple de Christ. Assalamu alaikum, amis qui êtes à l'écoute. Nous vous saluons au nom de Dieu, le Seigneur de paix, qui veut que chacun comprenne et se soumette au chemin de la justice qu'il a établi et qu'il ait pour toujours la paix véritable avec lui. Nous sommes heureux de pouvoir revenir aujourd'hui vous présenter votre émission Le chemin de la justice. Comme nous l'avons promis dans notre dernière émission, aujourd'hui, nous allons regarder comment ceux qui suivent Jésus-Christ doivent vivre pour plaire à Dieu. Nous allons voir comment la foi qui est dans le cœur du disciple de Christ devrait être visible dans sa manière de penser, dans sa manière de parler, dans sa manière de se comporter, dans sa conduite de tous les jours. Laissez-nous tout d'abord rappeler ce qu'un vrai disciple de Christ. Comme nous l'avons vu, le disciple de Christ est celui qui reconnaît qu'il est pécheur devant le Dieu saint et qu'il n'a aucun espoir d'entrer au paradis par sa propre force. Il comprend aussi le plan annoncé par tous les prophètes, plan qui permet à Dieu de pardonner les péchés des enfants d'Adam. Ce plan, c'était la mort sur la croix de Jésus-Christ le juste. Dieu l'a livré à la mort pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 4, verset 25. En résumé donc, le disciple de Christ est celui qui accepte de tout son cœur la bonne nouvelle de Jésus le Messie, qui a la certitude que tous ses péchés ont été enlevés comme Dieu l'a promis dans sa parole. Dieu adopte une telle personne comme son enfant. C'est ce qui est écrit dans l'Injile. Il est dit que tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ le Messie et qui croient en son nom ont reçu
le pouvoir de devenir enfant de Dieu, né non du sang, mais de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 à 13.
Donc, si vous devenez enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ et en son sacrifice, vous ne périrez jamais et Dieu vous donnera le droit de vivre pour toujours dans sa présence dans le paradis. Peut-être que quelques-uns vont me répondre. Ah, s'il est si facile pour le disciple de Christ d'entrer dans le paradis, alors il peut vivre comme il le veut, faire ce qui lui plaît, sans aucune peur de jugement, parce que Dieu a déjà pardonné tous ses péchés. Est-ce que les choses sont ainsi? C'est une idée absurde, et cela montre que ceux qui pensent ainsi ne comprennent pas encore ce qu'est le péché, et qu'ils ne connaissent pas non plus le Dieu saint. Jésus-Christ est venu nous délivrer de la domination du péché. Il n'est pas venu nous encourager à persévérer à pécher. Celui qui croit en Jésus-Christ n'est plus un esclave du péché. Vraiment, seuls ceux qui appartiennent au diable peuvent pécher et y trouver du plaisir. Mais l'homme que Dieu sauve et à qui il pardonne tous ses péchés par sa grâce, cet homme aura le cœur transformé. Dieu lavera son cœur et le rendra pur. L'homme pour qui Dieu fait cela fuira toute impureté. C'est ce que les Écritures disent.
2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Nous vous posons la question. Si vous portez un vêtement propre et parfaitement blanc, allez-vous vous asseoir dans un lieu sale? Non, vous allez éviter tout ce qui pourrait tacher vos vêtements. Il en est de même pour tous ceux que Dieu a purifiés de leurs péchés. Vous n'aurez plus envie de faire ce qui déplaît à Dieu. Pour donner une autre illustration, si quelqu'un vous pardonne une grande dette, allez-vous lui faire mal intentionnellement? Non, vous allez faire tout votre possible pour lui faire plaisir. De même, si Dieu vous a pardonné la grande dette résultant de votre péché et vous a sauvé du châtiment éternel, n'allez-vous pas le remercier et l'honorer en pensée, en parole et en acte durant le reste de votre vie? Écoutez ce que déclare l'Injile à propos de ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus. Tite chapitre 3, les versets 3 à 7. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Et un peu plus tard, 1 Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, « Vous serez saint, car je suis saint. » Comment alors pouvons-nous résumer la façon de vivre du disciple de Christ? De la manière suivante, ce que Dieu veut de ses enfants, c'est qu'ils manifestent ici-bas sur terre, par leur conduite, le caractère de Dieu. En bref, Dieu veut que ses enfants soient comme lui. Oui, mais comment est Dieu? Parmi toutes les qualités de Dieu, les deux attributs les plus importants sont la sainteté et l'amour. Dieu est saint, il est aussi amour. Quelle est alors sa volonté pour ceux d'entre nous qui sommes à lui? Il veut que nous soyons saints comme il est saint, et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous aime. Une vie sainte et un cœur rempli d'amour, voilà ce qui distingue ceux qui appartiennent à Dieu de ceux qui ne lui appartiennent pas. À ce propos, la parole de Dieu dit, 1 Jean chapitre 3, verset 10. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Un peu plus tard, dans les Saintes Écritures, il est écrit. Tite chapitre 2, versets 11 à 14. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Éphésiens chapitre 4, les versets 25 à 32. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte plus de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissant, faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 5. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans l'amour de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres. Mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. 1 Jean chapitre 4, le verset 7, le verset 20 à 21. Ainsi, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ses commandements. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est ce que disent les Écritures concernant la manière de vivre de ceux qui suivent Jésus-Christ. Est-ce que tout cela veut dire que le disciple de Christ ne peut plus pécher ou qu'il aime toujours son prochain comme lui-même? Non. Il peut toujours lui arriver de pécher, mais il ne peut plus persévérer dans le péché. S'il pêche, il peut s'appuyer sur la promesse de la parole de Dieu qui dit.
1 Jean chapitre 1 verset 7 à 9. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice.
Nous voyons donc qu'appartenir à Jésus-Christ n'est pas une simple question de religion. C'est une question de relation. Quand quelqu'un appartient à Christ, il a une merveilleuse relation avec le Dieu Saint, le Dieu d'amour. Cette communion intime avec Dieu qu'Adam et Ève ont perdue à cause de leur péché, Dieu nous l'a rendue au travers du sang que Jésus a versé sur la croix. Dieu ne se souviendra plus de nos péchés parce que Jésus a réglé la dette causée par notre péché. En Christ, Dieu devient notre Père et nous, ses enfants. Nous faisons partie de la famille de Dieu. C'est ce que disent les Écritures.
Éphésiens chapitre 2, versets 18 à 19. Car par Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu.
C'est ainsi que sont les choses. Ceux qui appartiennent à Christ sont en communion intime avec Dieu ici-bas sur terre et ils ont un héritage éternel dans le ciel. Mais comment le disciple de Christ peut-il entretenir une relation avec Dieu? Sur cette question, nous trouvons dans la parole de Dieu quatre points que, en tant que disciple du Christ, nous devrions respecter pour pouvoir vraiment comprendre la volonté de Dieu et vivre en harmonie avec notre héritage en Christ pour lui plaire en toutes choses et approfondir notre connaissance de Dieu. Premièrement, le disciple de Christ doit se nourrir de la parole de Dieu, la méditer chaque jour et la recevoir dans son cœur. Les Saintes Écritures nous révèlent la volonté de Dieu. C'est une nourriture qui nourrit notre esprit et qui le fortifie. C'est une nourriture délicieuse. Celui qui aime vraiment Dieu n'a pas besoin d'être poussé à écouter la parole de Dieu, parce qu'il en a faim comme on a faim de la nourriture nécessaire à la vie de chaque jour. La deuxième responsabilité est de prier Dieu notre Père qui est aux cieux. Pour le disciple de Christ, la prière, c'est parler avec Dieu comme on parle avec son meilleur ami. Le disciple de Jésus n'a pas à respecter une heure précise pour prier. Nous pouvons parler avec notre Dieu céleste à toute heure du jour ou de la nuit. Il nous écoute toujours. Il ne devrait pas y avoir un seul moment sans que son esprit soit conscient de Dieu. Il veut que nous le louions et que nous le remercions continuellement pour ce qu'il est et pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous invite aussi à lui dire tous nos soucis. Et nous n'avons pas besoin de le prier dans une langue particulière puisqu'il comprend toutes les langues du monde. Les disciples de Christ savent que la prière est puissante parce que le Seigneur Jésus lui-même a promis à ses disciples que
« Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean chapitre 14, verset 14.
Et aussi,
Philippiens chapitre 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. »
Troisièmement, il va chercher la communion avec d'autres qui croient et aiment le Seigneur Jésus-Christ. Comme le bois qui est dans le feu ne s'éteint pas facilement, de même ceux qui suivent le Christ devraient persévérer dans la communion avec d'autres pour s'encourager les uns les autres. Voilà ce dont parle la Bible quand elle dit.
Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher.
Quel est alors le quatrième point? La quatrième responsabilité des disciples de Christ est d'être ses témoins en expliquant le message de Jésus le Messie mort pour que les hommes puissent être pour l'éternité en communion intime avec Dieu. Et ce témoignage ne doit pas se limiter à des mots seulement, mais il doit aller de pair avec une vie transformée qui renforcera et confirmera le message. Ainsi l'Écriture dit.
1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance.
Vous qui écoutez aujourd'hui, avez-vous un jour rencontré Jésus-Christ le Sauveur? A-t-il pardonné vos péchés et renouvelé votre cœur? Votre vie est-elle remplie de la sainteté et de l'amour de Dieu? Êtes-vous un vrai disciple de Jésus-Christ? Nous vous remercions pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Réfléchissez avec soin à ce que les Saintes Écritures disent.
Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité.